en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 25 mars 2013, Jean-François Sirinelli, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po, fut l'invité de l'Académie des sciences morales et politiques. Il a prononcé une communication devant les académiciens intitulée « La question du français dans les sciences sociales ». Sa communication s'inscrit en droite ligne dans le thème annuel de réflexion de l'Académie pour 2013, initié par l'académicien Bertrand Collomb et qui s'intitule « La France dans le monde ». Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de cette communication et retrouvons en séance Jean-François Sirinelli.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Et vous le disiez, Monsieur le Président, à l'instant, ce qui me vaut le plaisir et l'honneur de présenter ma communication, c'est que le petit ouvrage que j'avais publié il y a 2 ans, « L'histoire est-elle encore française ?», a retenu, son titre a retenu et sa teneur ont retenu votre attention dans cette série d'interventions qui vous réunit et qui coordonne votre réflexion sur la France dans le monde. Alors, je me dois d'abord de commenter ce titre pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je ne suis pas, vous le savez, un spécialiste des relations internationales et quand je pose cette question, l'histoire est-elle encore française, il ne s'agit pas du tout pour moi de m'interroger sur un sujet au demeurant essentiel qui est le poids actuel de notre communauté nationale dans le déroulement, en quelque sorte, de l'histoire qui nous entoure, de l'histoire mondiale. Mon propos dans ce petit livre était beaucoup plus modeste. Quand je disais l'histoire, il s'agit de la discipline qui est la mienne, c'est-à-dire la discipline historique. Et quand je posais la question « l'histoire est-elle encore française ?», il s'agissait de réfléchir sur l'existence ou pas d'un rayonnement de cette discipline historique en 2013. Or, force est de constater, et ça sera, si vous le voulez bien, le point de départ de mon exposé, et ça sera l'une des questions que je soumets à la discussion et à la réflexion, force est de constater, disais-je, qu'il y a incontestablement dans le domaine de l'histoire et plus largement, car la mission que vous m'aviez confiée est de réfléchir plus largement sur les sciences sociales françaises, il y a, disais-je, plus largement j'hésite sur les mots, mais on va dire un recul, j'allais dire un reflux. Il y a un recul des positions des sciences sociales françaises dans le monde, c'est incontestable. Et mon propos, plutôt que d'entonner devant vous l'air de la déploration, est d'essayer d'analyser en historien, d'abord la nature, en quelque sorte, de ce recul, et sinon de vous proposer des prescriptions, au nom de quoi le ferais-je, en tout cas, participer à une réflexion en votre sein, cet après-midi, sur les remèdes possibles à un tel recul. Alors, pour le moment, j'en reste à la pétition de principe, puisque j'ai annoncé qu'il y avait recul. Encore faut-il essayer d'étayer une telle assertion. Et pour étayer une telle assertion, je partirai, si vous le voulez bien, de 2 images, ou plus exactement de la comparaison entre 2 images à un demi-siècle de distance, car précisément, cette mise en perspective de ces 2 images est, vous allez le voir, frappante. Les historiens dans le monde sont coordonnés notamment dans ce qu'on appelle le Comité international des sciences historiques. Et ce Comité international des sciences historiques se réunit tous les 5 ans dans un grand congrès qui réunit plusieurs milliers d'historiens venus du monde entier dans une ville donnée. Et j'en arrive à mes images. Mes images, je pourrais les intituler « Rome 1955, Sydney 2005 ». Pourquoi est-ce que je choisis ces 2 photographies, dont la première est singulièrement jaunie? C'est que à Rome, en 1955, au sein de ce comité international et lors de ce congrès quinquennal, l'histoire française était au cœur des débats, était au cœur des discussions, c'est-à-dire que les grands thèmes qui, pendant plusieurs journées, ont réuni les congressistes étaient des thèmes qui souvent provenaient des grands débats au sein des historiens français. Et d'ailleurs, ces historiens eux-mêmes, quand ils étaient présents, étaient au cœur de la discussion et du débat. Donc, vous le voyez, d'une certaine façon, sans trop forcer le trait, bien évidemment, on peut dire qu'à l'époque, l'école historique française donnait le « là », hein, à bien des égards. Alors, vous me direz qu'il y avait une raison intrinsèque, c'est que ce comité international, bien qu'il soit international, avait été fondé par des Français, était souvent présidé par des Français, et l'une des deux langues obligatoires, ou plus exactement pratiquées dans ces congrès, était le français aux côtés de l'anglais. Mais par-delà, j'allais dire, ses origines historiques, ce congrès était né après la Première Guerre mondiale, ce comité, il y avait une réalité, c'est-à-dire que le rayonnement de cette école historique française faisait que, bon, ben, quand des historiens du monde entier se réunissaient, le débat tournait autour de cette production francophone. Et d'ailleurs, allons plus loin, quand on analyse ce qu'était la géographie universitaire à cette époque, des sciences historiques dans le monde, on s'aperçoit que dans nombre de pays, hein, les titulaires de chaires d'histoire française, c'est-à-dire donc qui étaient en contact direct avec l'école historique française, étaient souvent de très grands historiens, renommés, respectés par leurs pairs. En d'autres termes, non seulement, vous le voyez, la science historique française donnait le « là », mais être peu ou prou en dialogue avec cette science historique était, dans les pays respectifs de ces chercheurs, très gratifiant. Ça, c'était 1955, il y a un peu plus d'un demi-siècle. Si je prolonge la courbe avant d'en arriver à ma seconde photographie plus récente, celle de 2005 et de Sydney, si je prolonge la courbe d'un quart de siècle et si je me place vers 1980, à la fin des années 70, force est de constater que ce rayonnement français a continué. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est le moment où on parle de nouvelle histoire, l'expression est assez ambiguë, elle désigne en fait des courants historiographiques très, très hétérogènes, mais par-delà l'ambiguïté d'une telle appellation, il y a une réalité, cette nouvelle histoire est une nouvelle histoire dont l'épicentre, le centre de rayonnement, le centre de production également, c'est la France, et je n'irai pas plus loin dans ce domaine, car un certain nombre des membres de votre compagnie ont été et sont encore des représentants, en quelque sorte, de cette génération qui a assuré la poursuite de ce rayonnement de l'école historique française, je le répète, encore dans les années 70 et 80. Mais j'en arrive, hélas, et vous verrez pourquoi je dis hélas, à 2005, c'est-à-dire au congrès de Sydney. Alors, au congrès de Sydney, en général, je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs milliers de congressistes lors de ces congrès. En général, c'est autour de 3000. Au congrès de Sydney, il y avait 1300 personnes. Bon, là, pas de surprise, c'est probablement parce que ce colloque se tenait peu ou prou aux antipodes et que les difficultés, le coût du voyage, la distance, la fatigue afférente, les difficultés pour un certain nombre de collègues venus des pays, des jeunes pays émergents à financer leur voyage, expliquent cette sorte de déficit. Mais là n'est pas mon constat. Mon constat, il est dans la présence, parmi ces 1300 personnes, des Français. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et la disproportion est écrasante entre la France, j'allais dire, et le reste du monde, puisqu'il y avait, en tout et pour tout, une quarantaine de Françaises et de francophones. C'est-à-dire que, dans un grand congrès international en 2005, sans qu'il n'y ait aucun complot, aucune opération délibérée, préméditée contre l'école historique française, par une sorte de mécanisme complexe sur les raisons duquel je reviendrai tout à l'heure, hein, la place, en quelque sorte, de l'école historique française, et surtout au regard de ce que je décrivais tout à l'heure, concernant Rome un demi-siècle plus tôt, hein, incontestablement, hein, cette place s'était érodée. Et pour aller plus loin, dans les programmes d'un congrès qui se tenait pendant une petite semaine, pendant 5 jours plus exactement, quand on regarde le nombre de panels, et vous voyez déjà l'usage du mot panel dans ma bouche vous montre en quoi déjà l'érosion était forte, le nombre des panels qui se tenaient en français étaient singulièrement faibles. Et en général, quand ces panels avaient lieu en français, il y avait dans la salle 10, 15 personnes, 20 personnes au maximum. Donc, tout ça pour vous dire que, par une sorte de paradoxe, à Sydney, les Français parlaient aux Français. Et donc, ça pose un réel problème, mais c'est une interrogation. Pourquoi cette production intellectuelle, cette production scientifique, cette production historique française était-elle, en tout cas ce jour-là, ou ces jours-là, et dans cet endroit-là, réduite, sinon à un statut d'isola, en tout cas réduit à la portion congrue. Et c'est là-dessus que je voudrais m'interroger dans la suite de mon intervention, en disant d'emblée que la cause, bien évidemment, de cette disproportion que j'évoque, est sans surprise. La cause, c'est la suprématie de la langue anglaise. Mais une fois qu'on a dit ça, il convient, et ça sera tout le sens de mon intervention, d'aller plus loin, d'autant que ça n'est pas la seule cause. La deuxième cause, la seconde cause sur laquelle aussi je reviendrai, c'est que, à la différence du milieu du XXe siècle, en 2005, nous sommes dans un monde globalisé. Et donc toutes les questions d'influence culturelle ne peuvent pas se poser simplement sur un registre théorique, mais sur le registre pratique, qu'est-ce que c'est qu'exercer une influence culturelle dans un monde globalisé ? Il y a la question de la langue, mais il n'y a pas simplement cette question de la langue. Et donc, à partir de ce constat, dont je conçois fort bien qu'il vous paraisse banal, mais n'oubliez pas que la banalité, la plupart du temps, est le reflet de la massivité des phénomènes, hein, et donc l'historien se doit de se saisir des sujets, y compris quand ils sont de cette nature banale. Donc à partir, disais-je, de ce constat, je voudrais essayer de monter en généralité durant la suite de mon exposé et de réfléchir avec vous, d'autant que pour le moment, j'ai parlé d'un recul. Mais je vais faire une deuxième observation qui va rendre notre analyse plus complexe, c'est que la qualité intrinsèque de la production historique française, elle, n'a pas baissé. Car, bien évidemment, en m'écoutant, l'une des causes qui aurait pu venir à l'esprit très naturellement, c'est de dire, bah ben voilà, il y a un recul, il y a un reflux, parce qu'il y a un recul de la qualité de cette production. Or, le paradoxe, car paradoxe il y a, c'est que nous sommes en face de cette situation, sinon d'isola, en tout cas de portion congrue, mais d'une production qui a gardé sa qualité intrinsèque. Et c'est là, vous le voyez, qu'apparaît une contradiction, hein, d'autant que donc le reflux n'est pas dû à un recul, je le répète, de la qualité. Et du coup, on débouche sur le problème concret. Comment nous, historiens, mais aussi comment mes collègues spécialistes d'autres sciences sociales, peuvent-ils à la fois préserver la qualité de leur production scientifique tout en s'insérant dans les grands circuits de la communication et de l'échange scientifique au XXIe siècle? Et on va voir que là, ça n'est plus simplement un paradoxe, nous sommes dans une sorte de véritable dilemme. Pourquoi ? Parce que, je le disais à l'instant, la question centrale est la question de la langue. Et je vais développer naturellement ce point dans un instant, mais donc l'historien, quand il est confronté à cette question, est confronté entre un choix qui est un choix cruel, qu'il tente longtemps d'éluder, mais auquel il est confronté, qui est le suivant. Par sa participation à la production des sciences sociales, il participe modestement, à sa place, mais il participe au rayonnement de notre culture. Les sciences sociales françaises sont un élément du patrimoine culturel français. Donc, dans sa production, il est sur une ligne de production et d'avancée. Mais comment peut-il faire pour faire en sorte de ne pas s'enfermer dans une sorte de bunker, de ne pas devenir un officier du désert des Tartares, en quelque sorte, qui, pour défendre en quelque sorte sa production scientifique, l'enferme dans la langue française. Mais s'il ne l'enferme pas dans la langue française, il ampute un autre aspect de notre patrimoine, qui est tout simplement la langue. Et vous voyez donc que ce que je suis en train d'évoquer, et qui est là aussi très banal, j'en ai conscience, et auquel probablement chacun d'entre vous est confronté peu ou prou dans le cadre de vos activités respectives, mais comment, en quelque sorte, résoudre ce qui est plus qu'un paradoxe, je le répète, et ce qui est encore plus qu'une contradiction, ce qui est quelque chose qui engage notre avenir. Et donc, à ce stade, et je vais passer maintenant, si vous le voulez bien, de constats très généraux, j'en ai bien conscience, à des points beaucoup plus particuliers, mais vous voyez que le diagnostic que je fais, et qui, me semble-t-il, n'a pas lieu de vous surprendre, est placé sous le signe d'un triple mot, l'urgence, car ce que je viens de décrire n'est pas le fruit de 50 ans d'évolution, puisque je vous rappelais à l'instant qu'encore au début des années 1980, la situation était somme toute assez proche de celle de 1950. Donc là, l'urgence vient du fait que l'érosion a été toute récente, et donc une érosion accélérée, donc urgence d'une situation. Bien évidemment, c'était implicite dans mon propos, gravité d'une situation, mais aussi, troisième maître mot, complexité de cette situation, car il ne s'agit pas, je le répète, simplement de rehausser une qualité qui existe intrinsèquement, mais de voir comment résoudre cette question de placer cette qualité, non seulement de la science historique, mais plus largement des sciences sociales françaises, en rayonnement, en position de rayonnement. Et donc, pour répondre à cette question, je voudrais, dans la suite de mon exposé, raisonner en historien, c'est-à-dire que je vous parle de la situation de la discipline historique, mais cette discipline historique me donne aussi un certain nombre d'instruments pour me saisir de cette question et pour essayer, sinon d'y apporter remède, en tout cas d'y apporter un certain nombre d'éléments de réflexion. Et je ferai, si vous le voulez bien, à ce stade, qui n'est pas encore le stade de la prescription, hein, j'essaye d'être dans le stade, au stade du diagnostic, en quelque sorte, je ferai quatre remarques. La première remarque, c'est que tout à l'heure, j'ai, d'une certaine façon, mais je l'ai fait volontairement, et vous m'en excuserez, commis une erreur de méthode en vous présentant, terme à terme, deux photographies, celle de 55 et celle de 2005, pour une raison très simple. C'est que je les ai comparées terme à terme dans un monde qui lui a changé. Et donc faire une comparaison de ce type n'a pas lieu d'être pour une raison très simple, c'est que qu'est-ce que ça veut dire un congrès à Rome en 1955 ? Ça veut dire une sorte d'entre-soi. Il y a des historiens polonais, des historiens soviétiques, des historiens italiens, français, américains, britanniques. En leur sein, il y a un clivage idéologique très fort, il y a des débats incontestablement très dur sur ce registre idéologique, mais en même temps, ça reste un entre-soi. C'est un petit monde, d'une certaine façon, un David Lodge pourrait décrire un congrès des historiens français de 1955, car c'est un monde d'avant la décolonisation. C'est l'année de Bandung, que cette année du congrès de Rome. Et donc, il y a quelques dizaines à peine d'États-nations dans le monde, et un congrès à Rome, c'est certes quelques milliers d'historiens, mais c'est quelques dizaines de pays représentés. Et donc, nous sommes dans un contexte d'entre-soi, alors que, bien évidemment, le Sydney de 2005, c'est le monde post-colonial, en quelque sorte, un monde où, certes, ce congrès n'a pas 200 nationalités différentes d'historiens, car je l'ai dit, beaucoup d'historiens ont du mal à se rendre à ce type de congrès, mais il y a 70, 80, 90 pays représentés, et donc ce sont des pays où on est passé, dans le fond, de cet entre-soi hein, au monde. Urbi et orbi, d'une certaine façon, et ça modifie totalement la donne, et bien évidemment, il faut dans ce cas-là hein, une langue universelle, et cette langue universelle, comme en d'autres temps le latin, se trouve être pour toute une série d'autres raisons que vous connaissez les uns et les autres, l'anglais, il y a là, si vous voulez, dans ce changement, en quelque sorte, géopolitique, déjà les racines, les germes, en quelque sorte, d'une partie de l'évolution que je décris. Toujours dans cette première raison et toujours analysé en historien, il était bien évident aussi que entre-temps, dans ce demi-siècle, c'est pas simplement des dizaines d'États-nations nouveaux qui sont apparus, c'est aussi des pays émergents qui sont devenus des môles émergents dans le domaine des sciences sociales. C'est-à-dire que les centres de gravité de la vie scientifique, eux aussi, se sont modifiés. Je dois dire, par exemple, dans le domaine qui est le mien, que je suis très impressionné par la production, par exemple, des historiens brésiliens qui, longtemps, diraient les disciples de Pierre Bourdieu, a été une historiographie dominée, au sens où elle était influencée soit par le continent nord-américain, soit par le continent ouest-européen. Hein, mais depuis, cette école brésilienne existe par elle-même. Hein, et il y a là, incontestablement, pour les décennies à venir, des choses qui s'amorcent. Et je disais que nous donnions le « là » à Rome en 1955, je serais prêt à parier qu'en 2055, certains historiens brésiliens donneront le là dans ce congrès de 2055. Or, bien évidemment, pour ces pays émergents et pour ces môles géographiques émergents dans les sciences sociales, la condition sine qua non de leur percée, c'est l'existence de cette sorte de latin commun, hein, aux uns et aux autres, et pour des raisons historiques, pour la plupart de ces aires géographiques, ça n'est pas le français qui s'impose directement à leur vue et à leur oui. Je dirai tout à l'heure pourquoi je dis oui. Donc, vous le voyez, en historien déjà, l'historien constate, hein, cette sorte de tectonique des plaques, à la fois linguistique et géographique et intellectuelle, qui a emporté, en quelque sorte, notre planète depuis un demi-siècle. Ça, c'est le premier élément. Il y a un deuxième élément, c'est tout simplement, je le disais en commençant, le processus de globalisation. Car, bien évidemment, le processus de globalisation, j'en ai bien conscience, est en premier lieu un processus socio-économique, mais on aurait tort de sous-estimer le processus de globalisation socio-culturelle. Hein, il y a là, incontestablement, pour moi qui travaille dans le domaine, certes, de l'histoire politique, mais tout autant de l'histoire culturelle, travaillant sur le second XXe siècle, ce qui s'impose à ma vue de chercheur, c'est, en quelque sorte, ce processus irréversible, et là aussi frappé par un mouvement apparemment par un mouvement apparemment irréversible de globalisation culturelle. Je pense, pour ma part, et je suis prêt à y revenir dans la discussion, que nous sommes actuellement dans une phase de mutation culturelle, comme l'histoire du monde on a rarement connu au fil des siècles et des millénaires. Donc moment de globalisation, mais également troisième constat pour l'historien lié au précédent, hein. La culture monde. Incontestablement, nous sommes dans un processus, le XXe siècle, et d'ailleurs les manuels du secondaire le présentent ainsi quand ils parlent de l'aspect culturel, le XXe siècle a été le moment de la montée en puissance de la culture de masse, et la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle sont le moment de la transformation de cette culture de masse en une culture monde. C'est très banal de le rappeler, mais je le répète, les phénomènes massifs s'imposent précisément par leur banalité, parce qu'ils sont massifs. Et donc, dans cette culture monde, pour nous, historiens, nous sommes, j'allais dire, des petits éléments, des molécules, en quelque sorte, de cette culture monde, emportées, en quelque sorte, par ce brassage. Et je le rencontre, moi, dans ma pratique professionnelle. Je vais prendre deux exemples concrets et ensuite, je ne parlerai pas plus longtemps de moi, mais le premier élément, c'est que je travaille notamment en histoire politique sur l'histoire de la Ve République, et notamment sur l'histoire des droites. Quand, dans les années 80, on observe un développement de l'extrême droite en France à partir du milieu des années 80, les historiens qui se penchent sur ce processus peuvent encore, à cette époque, entendre l'analyser avec des outils endogènes et avec des explications qui renvoient à l'histoire française, à une sorte de métabolisme de l'intermittence de cette extrême droite. C'est-à-dire que la grille d'analyse endogène franco-française suffit. Je remarque, en tant qu'historien, que je ne peux pas faire de même au début du XXIe siècle. Quand j'ai à étudier ce que j'appellerais les mouvements populistes, je commets une erreur de perspective si je les ramène à leur seule dimension franco-française. J'allais dire, le monde entre aussi dans nos cultures politiques. Or, par définition, s'il est un domaine où l'État-nation reste, en général, le plus solide et le plus longtemps, c'est bien le domaine politique. Et d'ailleurs, les historiens travaillent très souvent dans le cadre, leurs analyses se développent dans le cadre de l'État-nation. Sauf que, je le répète, hein, en tant que spécialiste d'une vie politique nationale, je suis obligé, hein, de tenir compte, beaucoup plus que pour les décennies passées et les siècles passés, hein, de tout ce qui relève, en quelque sorte, de cette culture monde. Et il en va, bien évidemment, de même sur l'autre registre de mon activité, qui est l'histoire culturelle, où là, quand je travaille sur les pratiques culturelles des Français, à bien des égards, quand je travaille sur l'entre-deux-guerres, quand je travaille sur mes intellectuels de l'entre-deux-guerres, je peux, d'une certaine façon, sans trop amputer mon analyse, garder une assiette, un périmètre franco-français, je ne peux pas le faire, hein, au début du XXIe siècle, où ces intellectuels et ces pratiques culturelles des Français sont à replacer dans des jeux d'échelle qui ont changé. Ça, c'était le troisième point de l'historien. Et vous voyez, je monte en généralité et d'une certaine façon, je déborde, puisque j'analyse des phénomènes qui dépassent très largement et la science historique et plus largement les sciences sociales. Mais le dernier point, il faut y venir aussi, c'est, alors après, on peut par ailleurs le déplorer, c'est mon cas, mais je ne me placerai pas sur le registre, je le disais, de la déploration, on constate le recul, l'érosion de la civilisation du livre. Or, ces sciences sociales sont des sciences sociales dont le support, hein, était, le vecteur culturel, était le livre. Pas simplement parce que c'était ainsi et parce que c'était un héritage, mais tout simplement parce que très souvent, le périmètre d'exposition des sciences sociales, la nécessité pour un philosophe, pour un historien, de décliner en quelque sorte les attendus de son développement, en quelque sorte, passe par ce livre, et pas simplement par l'imprimé périodique qu'est la revue, qui est aussi un support important, naturellement, de diffusion de la connaissance, mais par le livre. Or, il se trouve, là aussi, j'ai pas besoin d'épiloguer, en quelque sorte, ou de développer plus précisément, il se trouve que cette civilisation du livre, nous en constatons, j'allais dire, le recul, sinon le déclin. Ensuite, je laisse à chacun d'entre vous le choix des mots, et le choix de l'intonation qu'il donne à ces mots, mais l'un dans l'autre, incontestablement, il y a là un changement, en quelque sorte, des vecteurs culturels de l'échange. Or, tout acte culturel passe par deux données, la création, hein, mais aussi la circulation. Et donc, on ne peut pas dissocier les phénomènes de création, et la science, c'est un phénomène de création, hein, des phénomènes de circulation. Et donc là, nous constatons, en tout état de cause, ce qui a été, sinon de toute éternité, en tout cas depuis longtemps, le vecteur culturel majeur, hein, de notre expression, hein, avec en plus une tradition française, hein, dans ce domaine, hein, pour ne pas dire souvent une antériorité, que tout ça donc est très largement érodé par d'autres supports qui ont naturellement leur respectabilité. Bon, tout au long du XXe siècle, il y a la montée en puissance de l'image et du son, et bien évidemment, et ça participe de cette mutation culturelle que j'évoquais tout à l'heure, Internet, à mon avis, modifie, hein, jusqu'au travail scientifique lui-même, et en tout cas l'expression scientifique. Donc, vous le voyez, incontestablement, nous sommes dans toute une série de processus qui font que, je dois y revenir, on ne comprend pas ces problèmes de la science sociale, si des sciences sociales, pardonnez-moi, si on ne voit pas que toute vie scientifique doit comprendre deux registres, et pas deux registres successifs, mais deux registres concomitants. Le premier registre, j'y reviens, c'est l'acte de création. La vie scientifique, la science, fait partie de la création culturelle. C'est l'avancée d'un savoir, c'est-à-dire l'avancée de la représentation du monde, ou une contribution à une avancée de la représentation du monde. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est la raison sociale, le statut social des chercheurs que de faire cet acte de création. Mais je parlais de deux registres, car bien évidemment, ce registre de la création est indissociable du registre de la transmission, c'est-à-dire qu'un savoir n'existe que s'il y a circulation et échange. Pourquoi ? Il faut d'abord qu'il y ait circulation pour que ce savoir s'insémine, et il faut qu'il y ait échange pour que ce savoir soit débattu et qu'il soit soumis au jugement des pairs. Et donc, vous voyez au cœur, et je termine ce deuxième temps de ma réflexion, au cœur de notre réflexion, il n'y a pas simplement la question de la langue, il y a aussi la question des vecteurs culturels. Mais les deux choses sont liées, c'est parce qu'un certain nombre de langues sont dominantes sur un certain nombre de vecteurs culturels que la question est restée, est devenue, pardonnez-moi, une question aiguë. Et donc, la question pour nous, historiens, pour nous tenants des sciences sociales, c'est comment faire ? Faut-il, je reprends le syndrome du désert des Tartares, faut-il rester isolé en attendant des guerres linguistiques qui se mènent ailleurs, ou faut-il se saisir de la question ? Tout à l'heure, je me permettrai de vous faire, sinon des propositions, en tout cas des observations à partir de ce que peut éprouver un chercheur de mon âge. Quand je dis de mon âge, c'est-à-dire qui a connu les deux phases successives. Bien évidemment, il est souhaitable que les jeunes chercheurs entrent dans ce monde nouveau avec les instruments nécessaires pour s'insérer dans ce monde nouveau. Alors, dirais-je, dans un troisième temps de mon exposé, que faire ? Que faire ? Alors, d'abord, je voudrais poser la question en termes généraux. C'est-à-dire qu'avant d'en venir au rôle de chacun d'entre nous, il y a d'abord le rôle de la puissance publique. Car c'est une grande tradition que je qualifierais de tradition quasi-régalienne que le rôle joué par cette puissance publique dans le domaine de la défense et de la propagation d'une langue. C'est même d'une certaine façon un impératif catégorique que de promouvoir une langue, d'essayer de lutter pour les positions, en quelque sorte, de cette langue. C'est un des aspects de ce qu'on appellera la diplomatie culturelle. Et je dois dire que là, je suis très admiratif parce que j'observe une véritable guerre, non pas une guerre économique, mais une guerre intellectuelle, une guerre culturelle. Il y a là, de mon point de vue, une véritable ligne de front culturelle, mais qui dépasse chacun d'entre nous à titre individuel, mais qui nous concerne en tant qu'État-nation, en tant qu'individu agrégé et en tant que lié, en quelque sorte, dans un destin culturel. Et moi, je constate, pour m'en réjouir, que la prise de conscience est réelle, que l'action est soutenue, mais que cette action, vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de gravité et de complexité, que cette action est complexe. Car ça n'est pas la même chose de faire de la diplomatie culturelle dans les années 60 et d'en faire dans un monde globalisé. En d'autres termes, le paysage a changé. Et quelle stratégie, pour utiliser à nouveau une formule martiale, comme la ligne de front tout à l'heure, quelle stratégie mener dans un paysage qui a changé? D'une certaine façon, tout est à réinventer. Je n'ai pas de choses particulières à dire dans ce domaine, bien évidemment, sauf que chacun d'entre nous a sa pierre à apporter quand il voyage, quand il fait des colloques. Bien évidemment, il est aussi, d'une certaine façon, au service de la culture française. Mais ça, c'était un premier point en termes généraux. Toujours en termes généraux, il y a un deuxième point, c'est que pour le moment, je vous ai dit, ces sciences sociales se portent bien, de façon endogène. Elles se portent mal dans leur rayonnement, mais j'ai parlé de leur qualité qui reste stable. Encore faut-il s'assurer qu'il en soit de même à l'avenir. Et donc, un problème qui nous paraît un problème orbi, en quelque sorte, est un problème qui reste dans un premier temps un problème endogène. Et nous retrouvons la puissance publique, c'est une autre responsabilité de la puissance publique que de maintenir, en quelque sorte, les sciences sociales dans l'état qui leur permettent de rayonner, qui les rendent à même de rayonner. Or, bien évidemment, la question est complexe. J'observe, pour m'en réjouir, que par exemple, au moment où il y avait eu décision qu'un départ sur deux à la retraite ne serait pas remplacé, l'exception a été ce domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, ça n'est pas à m'en parler un problème politique, mais il y a une autre question qui est que nous parlons des sciences sociales dont les effectifs d'étudiants ont baissé au fil de ces décennies. Et bien évidemment, du coup, dans les universités, les présidents d'université font ce qu'on appelle un redéploiement et ils doivent tenir compte, c'est leur responsabilité de le faire, des modifications d'effectifs. Mais ça pose un très grand problème sur lequel, même si ça n'est pas l'objet de mon exposé aujourd'hui, j'attire votre attention, c'est que il n'y a pas en France beaucoup de grands organismes de recherche en sciences sociales en dehors de l'université. Il y a certes un certain nombre, par exemple, de laboratoires du CNRS, mais la plus grande partie de la recherche en sciences sociales se fait à l'université. Et donc, quand vous avez des UFR ou des départements ou des sections dont les effectifs au fil des décennies sont des effectifs en décrue, bien évidemment, c'est comme des flotteurs qui perdraient de l'air progressivement pour cette recherche française. Donc, tout ça pour vous dire que, bien évidemment, l'objet de mes remarques aujourd'hui porte sur les questions du rayonnement, mais on ne peut rayonner qu'en protégeant, en entretenant le foyer initial. C'est-à-dire que ce problème n'est pas simplement un problème extérieur, mais demeure une question endogène. D'autant que qu'est-ce que ça veut dire rayonner ? Ce qui est intéressant, mais je ne veux pas aborder ce terrain qui serait, à certains égards, un terrain polémique, c'est que quelquefois, dans les sciences sociales, ce qui rayonne à l'étranger n'est pas forcément, si vous voulez, ce qui est considéré par les pairs comme le plus scientifiques à l'intérieur. Hein, il y a des effets, il faut le dire, de mode, quelquefois, dans certaines sciences sociales qui font qu'un certain nombre de grands esprits français rayonnent à l'étranger sans pour autant être considérés dans le pays père, si j'ose dire, comme des figures de proue de leurs disciplines respectives. C'est une question classique, hein, mais qui est importante aussi. Hein. Qu'est-ce que les sciences sociales ? N'oubliez pas que nous sommes vus à l'étranger à travers des miroirs déformants, ce qui ajoute à la complexité des choses. Nous, je veux dire, nous, les sciences sociales. Donc, ça, c'était dans l'énoncé ou l'énumération, sinon des mesures possibles, en tout cas des prises de conscience nécessaires, c'était ce que j'appelais les mesures générales, relevant de ce que j'appelais la puissance publique. Ensuite, comment faire chacun à son créneau ? C'est-à-dire comment les universitaires, les chercheurs peuvent-ils faire pour contribuer en quelque sorte à cette réaction. Alors là, c'est très compliqué parce que nous retrouvons le problème de la langue. Et je voudrais consacrer les quelques minutes qui me restent à évoquer à nouveau cette question de la langue. Car, au bout du compte, la question c'est, faut-il diffuser en anglais ? À bien des égards. Ça peut se ramener à cette question qui vous paraîtrait à bien des égards lapidaire. Je vais faire sur une telle question une réponse, autant la question est lapidaire, autant, me semble-t-il, la réponse doit être nuancée. Il y a, je dois le dire, un certain nombre d'éléments qui conduisent, hélas, du point de vue d'un francophone, à dire oui. Oui, il faut diffuser en premier lieu en anglais. Alors, les éléments qui poussent en ce sens, il y en a trois essentiellement, et je ne suis pas exhaustif, mais trois notamment, je dirais. D'une part, il faut le constater, nos collègues étrangers sont de moins en moins francophones. Donc les éléments de l'échange, les éléments de la circulation ne s'imposent plus naturellement. Je reviens au syndrome Sydney, si j'ose dire. Je disais que quand il y avait des panels en français, il y avait 10, 15, 20 personnes qui assistaient. Ça n'était pas par hostilité. Les gens poussaient la porte, entendaient du français et repartaient tout simplement parce qu'ils n'étaient pas à même de suivre le panel en question. Et donc, si vous voulez, il y a là une question qui est une question essentielle. Pour poser la question différemment, je dirais qu'il y a un de mes collègues qui est un grand historien respecté par nous tous, qui s'appelle Alain Corbin. Et Alain Corbin, notamment, a, dans la dernière partie de sa carrière, beaucoup travaillé sur ce qu'il appelait les cultures sensibles, c'est-à-dire comment l'homme est rattaché au monde qui l'entoure par les différents sens, et notamment l'ouïe et la vue. Et je dirais, d'une certaine façon, que notre drame à nous tenant des sciences sociales françaises, c'est que nous sommes en train d'être évacués des cultures sensibles de nos homologues étrangers, car nos sons ne leur parlent plus, hein, parce que, si vous voulez, le français ne s'impose plus, en quelque sorte, dans leur univers, comme c'était le cas encore il y a 20 ou 30 ans, où beaucoup de grands universitaires étrangers éprouvaient le besoin de connaître le français pour lire la production française dans le texte. Et donc, un premier constat qui s'impose, je le répète, c'est ce problème, hein, donc de notre disparition des cultures sensibles, en quelque sorte, de nos homologues étrangers. Et le deuxième élément, c'est que la recherche se fait maintenant beaucoup par les autoroutes de l'informatique, comme on dit dans le langage courant, et notamment par les moteurs de recherche. Et le problème, c'est que ces moteurs de recherche sont tombés dans la théorie du complot, sont la plupart du temps, vous le savez, des moteurs de recherche anglo-saxons, et donc qui ne recherchent ou qui ne prennent en charge et ou qui ne prennent en compte que, j'allais dire, souvent une production, sinon anglo-saxonne, en tout cas anglophone. Et donc là, on est confronté à autre chose qui est comment faire pour être visible et audible, non plus dans les cultures sensibles de nos collègues, mais dans les processus techniques, hein, de ceux qui remplacent de plus en plus les cultures sensibles qu'était le contact direct avec autrui. C'est une réelle question qui me frappe beaucoup. Moi, j'ai été très frappé. Il y a 2 ans, je visitais la bibliothèque du Congrès à Washington et j'ai été très frappé parce que elle se visite précisément. Il y a plus de touristes que de chercheurs. Et à un moment donné, il y a cette scène qu'ont éprouvé probablement un certain nombre d'entre vous, qui est une scène étonnante où on est sur la coupole, on domine le lieu où il y a des chercheurs, en d'autres termes, des lecteurs, hein, et il y a 10, 15 lecteurs, et que, sans dire qu'on les regarde comme la fosse aux ours, hein, c'est le tourisme qui est en surplomb de ce qui est peut-être une réserve naturelle. Sauf que cette réserve naturelle, elle s'est greffée sur le net et la Bibliothèque du Congrès est, j'allais dire, consultée quotidiennement par des dizaines de milliers, peut-être plus, de chercheurs. Donc, vous le voyez, incontestablement, il y a ce deuxième point qui est réel. Le troisième point, mais ensuite je nuancerai et je tiendrai des propos francophones, le troisième point, c'est tout simplement le risque de marginalisation. Je reprends à nouveau l'image du désert des Tartares, hein, à trop nous enfermer dans une ligne de défense linguistique, ne risquons-nous pas de nous isoler, d'attendre des guerres qui ne viendront plus parce qu'elles se jouent ailleurs. Et c'est un réel problème avec toujours cette question, comment faire connaître la science française, hein, tout en respectant et en nourrissant la langue française. Donc, il y a là, si vous voulez, un certain nombre de raisons. Sauf qu'il y a, et je terminerai par là, Monsieur le Président, il y a, des raisons qui plaident en sens inverse et qui plaident pour, naturellement, le fait de se battre aussi sur une ligne de front linguistique. Alors, ces raisons, c'est tout simplement, j'y reviens, que le cœur, la substance d'une culture, c'est sa langue. Et que tout ce qui, à un degré ou à un autre, à un titre ou à un autre, affaiblit cette langue, ampute une partie de cette culture. Et donc, il y a incontestablement un principe de, j'allais dire, de responsabilité, en tout cas, dans l'acte de création. Je ne parle plus là de l'expression dans un colloque, je parle de la création, donc dans l'écriture, pour un chercheur, il y a probablement la nécessité de continuer à écrire en français. Si vous voulez, je crois que si nous disons aux Anglais, messieurs les Anglais, parlez les premiers, ils ne nous parleront pas en français. Et la première salve linguistique sera meurtrière à bien des égards. Et pour filer cette métaphore historique approximative jusqu'au bout, messieurs les Français, continuons à parler au moins dans un premier temps en français, et en français en tout cas en premier lieu. Mais il y a un deuxième problème, probablement beaucoup plus grave, parce qu'il tient là à la nature des sciences sociales. Qu'est-ce que c'est les sciences sociales ? Les sciences sociales, ce sont des sciences qui travaillent sur l'humain et sur l'humain en société. Et donc, leur rôle, c'est de rendre compte d'une réalité, quelquefois dans le cas de l'histoire, c'est une réalité abolie, une réalité qui fut et qui n'est plus. Pour d'autres disciplines, c'est une réalité qui est celle qui nous entoure. Mais dans tous les cas, une réalité, qu'elle soit passée ou qu'elle soit contemporaine, est une réalité complexe. Donc, ce que la société attend de nous, c'est un rendu de complexité. C'est ça notre métier, c'est ça, j'y reviens, notre raison sociale. Or, pour rendre compte de la complexité, il faut quoi ? Tout simplement la nuance. Qu'est-ce qui donne la nuance ? Qu'est-ce qui confère la nuance ? C'est le sens et la puissance des mots, et aussi le registre des mots. Et donc, vous le voyez, moi, ce qui m'inquiète dans cette question de la langue, c'est que, bien évidemment, il existe l'anglais de l'échange, y compris de l'échange scientifique. Et loin de moi l'idée de dire que c'est un anglais totalement appauvri, totalement dégradé. Mais je suis en droit de dire qu'il me semble que cet anglais est un anglais peu propice à la nuance, peu propice au rendu de la complexité. Autant dans un certain nombre de domaines, comme les mathématiques, comme la médecine, je me réjouis qu'il y ait une sorte de langage universel. Puisqu'il s'agit d'un rendu, j'allais dire, de sciences exactes. Et il est souhaitable même qu'il y ait, et d'ailleurs, la question est réglée depuis longtemps, parce que même les questions de traduction qui pouvaient faire qu'un mot dénaturait un résultat sont réglées et on parle, j'allais dire, la même langue dans tous ces pays. En revanche, dans les sciences sociales, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous voyez, de même qu'un PowerPoint, quelquefois, en semblant simplifier la forme, appauvrit le fond, je pense effectivement qu'un anglais trop pauvre, en quelque sorte, risque de nous faire sortir de ce qui est, j'allais dire, la grandeur hein, des sciences sociales, c'est-à-dire ce rendu de complexité. Et donc, je terminerai pour ne pas abuser de votre attention en disant que je crois que la question essentielle, c'est la question de la traduction. Excusez-moi de revenir à des choses tout à fait prosaïques. Je pense très sincèrement que je parle de la traduction des œuvres françaises en langues étrangères. Hein. Je crois qu'il y a là une nécessité. J'allais dire, il faudrait un plan Marshall de la traduction, mais avec une telle formule, je m'aperçois même que je m'enfonce dans les contradictions que je suis ou que je tentais depuis trois quarts d'heure de résoudre en quelque sorte. Mais incontestablement, il y a là un enjeu qui est essentiel. Mon exposé n'a pas été le glas, mais il se voulait à bien des égards le tocsin, et s'il n'est pas une pavane pour les sciences sociales défuntes, il est incontestablement un cri d'alarme pour des sciences françaises qui se trouvent, je pense, à la croisée des chemins. L'ampleur, l'accélération de l'évolution fait que le combat est ici et maintenant, à bien des égards. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la communication de Jean-François Sirinelli intitulée « La question du français dans les sciences sociales », une intervention prononcée le 25 mars 2013 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, une retransmission de Canal Académie.